France Culture.
I lie among the tall green grass that bends above my head and covers up my wasted face and folds me in its bed tenderly and lovingly like grass above the dead. Je suis étendu dans la haute herbe verte qui ploie par-dessus ma tête et recouvre mon pauvre visage et m'enveloppe dans son lit de tout l'amour et la tendresse de l'herbe qui recouvre les morts. La rivière éternelle s'écoule dans son lit herbeux, les voix de mille et un oiseaux résonnant au-dessus de ma tête m'apporteront un rêve plus triste encore. When this sad dream is dead. Elisabeth Sidal, une vampire dans le tableau.
Premier épisode, la fabrique d'une légende.
Une histoire particulière de Lila Bozès et Laurent Polleray.
Glenda Youd, on vient d'entendre un poème d'Elisabeth Sidal, mais si elle est connue aujourd'hui, c'est plutôt à cause d'un tableau. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel ?
Elle est célèbre car elle a posé pour un tableau nommé Ophélia de John Everett Millay. C'est un des tableaux les plus populaires de la Tate Britain. Tous les visiteurs du musée viennent le voir, restent devant et s'émerveillent face à ce modèle étendu dans l'eau.
Millay, qui a peint ce tableau, fait partie du mouvement pré-raphaélite. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce courant pictural ?
Le mouvement pré-raphaélite apparaît aux alentours de 1849, lancé par des jeunes hommes qui étudiaient à la Royal Academy. Ils considéraient l'art populaire de l'époque comme étant très surchargé et ennuyeux, et ils voulaient faire quelque chose de très différent. Ils voulaient repousser les limites de la peinture. L'arrière-plan du tableau Ophélia a par exemple été peint vers Ewell, dans le Surrey, sur les berges de la rivière, vraiment in situ. Seule la figure d'Ophélie elle-même a été peinte en studio. Ils voulaient reproduire la nature à la perfection. Et ils cherchaient des jeunes femmes qu'ils appelaient des canons, qui avaient une apparence un peu singulière. Elisabeth, par exemple, était rousse, ce qui n'était pas très en vogue à l'époque victorienne. Ils cherchaient des gens qui leur semblaient atypiques et elle en faisait partie.
Est-ce que Elisabeth Sidal se sentait à sa place dans ce groupe pré-raphaélite ?
Elle appartenait à une classe sociale différente de la plupart des autres membres du cercle pré-raphaélite. C'était la fille d'un coutelier de Sheffield qui avait déménagé avec sa famille à Londres pour faire fortune. Ils s'en tiraient plutôt bien à Londres, mais ils appartenaient à une classe inférieure à celle des Rossetti, qui était plutôt de la classe moyenne. Tout comme Millay et Holman Hunt, leur famille était fortunée et avait payé pour les envoyer à l'école de peinture. Ce n'était pas le cas d'Elisabeth. C'était une travailleuse, donc même si elle ne faisait pas partie des classes les plus basses de la société, elle était moins aisée que le reste du groupe. Mais ils l'acceptaient quand même parmi eux.
Elisabeth Sidal devient donc un modèle pour les pré-raphaélites. Est-ce que c'était une fin en soi pour elle ?
Je ne pense pas. Je pense que la raison pour laquelle elle a décidé de devenir modèle, c'est qu'elle le voyait comme une façon d'en apprendre plus sur l'art. Elle avait déjà dessiné toute seule et s'intéressait beaucoup à l'art. Et quand ces jeunes artistes lui ont demandé d'être leur modèle, cela lui semblait être une bonne opportunité d'apprendre. Et c'est précisément ce qui s'est passé.
Pourquoi est-ce qu'ils ont été intéressés par... Elisabeth Sidal, qu'est-ce qui les a marqués chez elle ?
Elle les intéressait particulièrement parce qu'elle était rousse. Elle avait des traits impressionnants et un corps fin, androgyne. Elle n'était pas conventionnelle. Les pré-raphaélites voulaient peindre des gens qui ressemblaient aux gens normaux, à l'opposé, par exemple, des modèles plantureuses de William Etty, qui étaient très populaires à l'époque.
«
elle a dû être découverte en deux temps.
Florence Alibert.
C'est-à-dire qu'au départ, le poète William Allingham devait traîner du côté des modistes pour sans doute des raisons de séduction. Enfin, voilà, un jeune homme qui souhaite rencontrer des jeunes filles. Bon. Et apparemment, Allingham voit Sidal. Et suivant cette sorte de pulsion scopique, la trouve intéressante parce qu'il est ami avec Walter Deverell, qui est donc un jeune peintre, qui cherche pour La Nuit des Rois, une représentation qu'il fait justement d'une pièce de Shakespeare. Il peint La Nuit des Rois et il cherche un personnage à incarner pour sa Viola. Et Viola est, dans la scène qu'il représente, travestie en garçon. À ce moment-là, la pièce de Shakespeare. Donc, Deverell cherche une Viola capable d'incarner un personnage travesti. Et finalement, il entend parler d'elle pour incarner ce personnage-là. Alors pourquoi elle est intéressante pour Viola ? Peut-être parce que quand on la voit, elle est relativement grande pour l'époque, fine. Ses formes ne sont pas très développées, donc la déguiser en garçon reste tout à fait possible ou crédible. Donc Deverell débarque chez la modiste avec sa mère, puisque toute la question de la bienséance victorienne se place à ce moment-là. Les intentions de Walter Deverell sont pures, c'est-à-dire qu'il veut un modèle, il ne veut pas a priori une maîtresse. Donc Elisabeth Sidal commence ainsi avec un côté assez vertueux. C'est une jeune fille relativement prude qui a eu une éducation religieuse et qui, à l'instar de l'éducation qu'elle a reçue, enfin en tout cas, entre dans ce milieu artistique avec déjà une aura de pudeur et de chasteté. Souvent, quand on parle d'artistes et puis de cousettes, on voit bien l'enjeu qu'il y a derrière, avec possiblement quelque chose d'assez débridé, ou en tout cas des enjeux sexuels assez clairs. Là, la chose n'est pas du tout comme ça. Et elle devient un modèle régulier du cercle pré-raphaélite dès 1850. Alors, elle pose pour Deverell, évidemment, mais elle pose aussi pour William Holman Hunt, que ce soit chez Deverell ou chez Hunt. Les deux premières représentations de son physique ne sont pas très flatteuses. Elle fait très jeune fille assez gauche, pas très jolie esthétiquement, suivant en tout cas les critères en vogue à l'époque. Elle n'est pas encore propulsée au rang de stunner, c'est-à-dire le canon, hein, la bombe. Stunner, c'est le mot des garçons pré-raphaélites, des jeunes hommes qui constituent ce cercle et qui qualifient comme ça les belles jeunes femmes ou les jeunes femmes qui les attirent. Son statut de stunner ne s'acquiert peut-être que lorsqu'elle commence vraiment à poser pour Rossetti, autour de 1851 sans doute. Ce n'est pas un coup de foudre, hein. Mais en tout cas, Deverell, qui était amoureux de Sidal, fait une publicité forte. Hein. On a comme ça des recensions où il la décrit comme une beauté celtique, avec les yeux gris, grandes, majestueuses, enfin très idéalisée tout de suite. Et on voit bien que Rossetti est intéressé par cette créature. Donc, eh bien, on voit que discrètement, il arrive à la convaincre de poser pour lui et finalement de ne poser que pour lui. Et dès 1851, la fin de l'année 1851, on voit dans les correspondances, qui sont riches d'enseignements, de confidences, dans les correspondances, les journaux intimes, que Elisabeth Sidal est considérée comme la fiancée ou la petite amie, en tout cas, le modèle exclusif de Dante Rossetti.
Ainsi, lorsque je t'ai vue pour la première fois, mon adorée, j'ai compris que parmi les âmes alliées de la mienne, il s'en trouvait encore une, d'une parenté plus étroite que celle reconnue par la vie. Oui, née avec moi dans une région oubliée des humains, sans t'avoir jamais rencontré dans les années de lutte et de bruit, je te reconnais comme une âme sœur.
Dante, Gabriel Rossetti, Le lien du sang.
À quel moment de la vie d'Elisabeth Sidal apparaît Ophélia de Millet ?
Glenda Hude.
Ophélia est arrivée assez tôt dans sa carrière de modèle. Et c'était avant qu'elle ne devienne le modèle exclusif de Gabriel Rossetti. Millet commença à peindre l'arrière-plan du tableau en 1851 et finit de peindre le portrait d'Ophélie en 1852. Le tableau fut exposé à la Royal Academy à l'été 1852. Donc assez tôt. Elle était dans les cercles pré-raphaélites depuis 1850, peut-être 49.
Et pourquoi ce tableau de Millet est-il aussi fascinant ?
Un jour, j'ai demandé à une jeune fille de 10 ans qui était au musée, « Pourquoi est-ce que tu aimes ce tableau ? Et pourquoi est-ce que tu aimes la fille étendue dans la rivière ?» Et elle m'a répondu, « Parce qu'elle est belle et parce qu'elle est morte. » Et je pense que cela résume parfaitement l'attrait de ce tableau.
There is a willow grows Ascanta Brook that shows his hoary leaves in the glassy stream. Therewith fantastic garlands did she make. Il y a, en travers d'un ruisseau, un saule qui mire ses feuilles grises dans la glace du courant. C'est là qu'elle est venue, portant de fantasques guirlandes de renoncules, d'orties, de marguerites. Là, tandis qu'elle grimpait pour suspendre sa sauvage couronne au rameau incliné, une branche envieuse s'est cassée. Et tous ses trophées champêtres sont comme elle, tombés dans le ruisseau en pleurs. Ses vêtements se sont étalés et l'ont soutenu un moment. Nouvelle sirène. Mais cela n'a pu durer longtemps. Ses vêtements, alourdis par ce qu'ils avaient bu, ont entraîné la pauvre malheureuse de son chant mélodieux à une mort fangeuse.
Shakespeare, Hamlet, acte 4, scène 7. Hamlet, c'est l'histoire de la passation de pouvoir d'un royaume du Danemark entre le père qui a été assassiné par son frère et le fils Hamlet qui fait tout pour ne pas gouverner.
Valérie Bajou.
Ophélie est son amante, et ça on le comprend à la fin de la pièce. Elle est surtout la fille obéissante de son père, le ministre Polonius, de son frère Laërte, et donc de son amant Hamlet.
Qu'est-ce qui va se passer pour Ophélie ?
Hamlet tue Polonius, le père d'Ophélie, et Ophélie, selon certaines interprétations, sombre dans la folie. Elle se noie, ce qui n'est pas représenté sur scène, ce qui ne pouvait pas être représenté sur scène à l'époque de Shakespeare, ni au XVIIe, à l'époque de la tragédie classique en France. Et donc c'est Gertrude, la reine, qui rapporte un récit d'un batelier ayant vu Ophélie se noyer dans une rivière.
Est-ce qu'on peut décrire ce passage de la noyade d'Ophélie ?
Alors, Ophélie erre dans la forêt, dans un sous-bois, vraisemblablement en chantant ou en divagant. Elle se rapproche d'un ruisseau très sombre. Elle se raccroche à une branche de saule et le saule rompt, elle se noie.
Et on a l'impression de connaître cette figure d'Ophélie, même quand on ne connaît pas Hamlet, même quand on n'a même jamais vu de tableau qui la représente, elle fait partie d'un imaginaire collectif. Comment ça se fait ?
Parce que tout le monde connaît au moins une représentation d'Ophélie se noyant. Au début, ce n'est pas la scène de la noyade qui a été représentée au début du XVIIIe siècle. La noyade est venue vraiment à l'extrême fin du XVIIIe, mais elle a été représentée au XIXe siècle par des artistes français et anglais, et quelques-uns allemands aussi. Et du coup, c'est vraiment devenu une image très forte dans l'imaginaire européen.
Et dans toutes ces représentations d'Ophélie, il y en a quand même une qui est particulière, c'est celle de Millet.
Alors, c'est celle de Millet, qui est très connue parce qu'elle est exposée à Londres en 1852. Et puis, 3 ans plus tard, à l'exposition universelle de 1855 à Paris, elle est présentée également. Et là, elle a touché des milliers de visiteurs.
Ophélie est devenu un tableau très 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 connu.
C'est un tableau qui est devenu très connu et qui est devenu le tableau préféré des Britanniques.
Aurélie Petiot.
Et ce qui est intéressant, c'est que souvent on le voit sur des posters, dans les chambres d'étudiants, ou voilà, dans l'espace public, alors que c'est en fait un assez petit format et que c'est vraiment la confrontation à l'original qui permet de regarder les détails, de comprendre tout l'environnement écologique dans lequel est insérée la figure d'Ophélie. Pour ce tableau, donc, le dessin qui émerge de ces séances de pose est absolument fantastique. C'est un tableau qui est peint en partie en plein air, dans une des premières tentatives de William Holman Hunt et Millay de s'approcher de la nature. Ils vont donc dans le sud de l'Angleterre pendant 2 étés peindre cette nature. Le tableau est peint in situ pour le paysage. Évidemment, il n'allait pas la faire poser dans une rivière de longs mois. Et la figure d'Ophélie sera peinte en atelier.
The painting shows a beautiful river bank.
Le tableau représente une très belle rivière avec des rosiers et des fleurs à l'arrière-plan. Au premier plan, il y a un rouge-gorge posé sur les branches d'un saule. Ophélie est étendue dans la rivière. On voit la partie supérieure de son corps. Elle porte une guirlande de violettes autour du cou. Il y a plusieurs fleurs différentes dans sa main et d'autres éparpillées autour d'elle dans la rivière. Elle a posé dans une baignoire pour reproduire l'effet de l'eau sur ses cheveux. Millay avait fait plusieurs dessins préparatoires et des aquarelles, mais pour avoir cet effet aquatique, il avait vraiment besoin qu'elle soit dans la baignoire.
Et quelle est l'histoire autour de la création du tableau Ophélia qui a participé à la légende d'Elisabeth Sidal?
Ça a contribué à sa légende parce qu'elle a posé pour le tableau dans une baignoire remplie d'eau dans le studio de Millay. Il a laissé l'eau refroidir et elle est tombée très malade après coup. Il a dû payer ses frais médicaux, mais elle n'a jamais retrouvé une santé parfaite après avoir posé dans la baignoire. Sa maladie et sa mort se sont retrouvées liées au fait qu'Ophélie, dans la rivière, se dirige vers sa propre mort. Elle tient une fleur de pavot dans les mains, ce qui est une vraie coïncidence parce que le pavot provoqua ensuite la mort d'Elisabeth par overdose de laudanum. Cette drogue, l'opium, vient du pavot. C'est pour toutes ces raisons que ce tableau et sa vie sont aussi liés.
Moi, ce que je vois dans ce tableau-là, effectivement, c'est ce mélange d'Eros et de Thanatos et puis cette indécision. Ophélie, c'est une femme en transition. L'Ophélie de Millay est une femme en transition. Elle ne sait pas choisir, en fait. Elle est entre la vie et la mort. Elle ne sait pas choisir entre les deux. Et on voit qu'on la suspend à un instant comme ça, qui est un instant sublime. C'est vraiment la question aussi du beau bizarre qu'on retrouve chez Baudelaire. Ce côté est vraiment un côté intermédiaire. C'est un personnage psychopompe, en fait, pour moi. C'est un personnage de transition entre la vie et la mort. Entre l'amour et le désespoir, entre l'espoir et la fin. Enfin, elle est dans une position intermédiaire qui est une position éminemment ambiguë et qui en fait sans doute tout l'intérêt.
Ophélie, dans le tableau, oui. Elle a les yeux ouverts. Est-ce qu'on peut la décrire un petit peu?
Alors, elle est dans une position qu'on pourrait juger assez extatique, assez figée. Ses mains sont en position d'offrande, d'offertoire, et son visage fixe un point qui est un point... un regard intérieur, en fait. Hein. C'est un point vers l'inconnu, peut-être vers la vie par-delà la vie, déjà, où elle entrevoit, en tout cas, une suite. Et sa bouche est légèrement entrouverte. Alors, bien sûr, cette position a beaucoup fait jaser, ou en tout cas a provoqué différentes appréciations dans les différents commentaires qu'on a pu faire de ce tableau, où, effectivement, ce que je vous disais précédemment, on voit qu'elle hésite, enfin, c'est l'interprétation qu'on peut en fournir, hein. Mais on voit qu'elle hésite, peut-être entre une position qui est presque une position d'extase, de jouissance en fait, hein, ou au contraire un souffle dernier qui la fait parvenir vers un au-delà qu'elle envisage déjà. Donc ce personnage en transition constante qui est comme ça dans un moment suspendu, qui n'est qu'un instant en réalité, qui est vraiment cette limite très ténue entre la vie et la mort, ben, je crois que ne peut qu'intéresser ou fasciner.
Anaëlle Lahaye.
Dans beaucoup d'œuvres qui présentent des belles mortes, on ne peut pas passer à côté d'une dimension érotique qui est installée par l'artiste. Et outre le souci du fait que on a une sexualisation permanente du corps féminin, le problème c'est qu'érotiser une belle morte, c'est érotiser la nécrophilie. Donc on est déjà sur une limite. Dans le cas de l'Ophélie de Millay, c'est comme si le spectateur avait écarté un fourré au bord d'une mare avant de tomber sur le corps. Et donc, on retombe cette idée de spectacle volé. Et c'est précisément la raison pour laquelle l'Olympiade Manet ou la femme nue du déjeuner sur l'herbe avaient dérangé. C'est parce qu'elles reprennent le pouvoir, elles fixent le spectateur. Or, ici, c'est vraiment l'inverse paroxystique, c'est-à-dire que la dépouille, elle peut littéralement rien faire pour se soustraire au regard puisqu'elle est morte. Elle est quasiment réifiée en objet et en objet de désir. Et pour aller plus loin, la belle morte, c'est même l'esthétisation ultime de l'impuissance de la femme. C'est un corps qui est offert au regard, elle parle pas, elle a pas d'identité, elle a pas de caractère, c'est juste un corps. C'est la beauté qui est soumise au fantasme.
Comment est-ce que Elisabeth Sidal est représentée dans les autres tableaux des Préraphaélites et en particulier peut-être dans ceux de Rossetti?
C'est une étoile en fait, Elisabeth Sidal, avec sans doute une lumière sombre, mais elle est toujours représentée comme un symbole de chasteté, pâle, éthérée, distante. Et je suis assez frappée en regardant à nouveau ces petites représentations que Rossetti fidèle par quelque chose qui émanait de sa personne apparemment. C'est-à-dire une femme qui se tient toujours dans une position très hiératique, un peu marmoréenne, et qui finalement donne toujours l'impression, et là je cite l'un des acteurs du préraphaélisme, je crois que c'est William Michael Rossetti de mémoire, qui disait que lorsqu'on lui parlait, elle était toujours très polie, très suave, mais elle donnait toujours l'impression de s'ennuyer un peu et d'avoir envie de mettre fin assez rapidement à la conversation. Et dans ces petites représentations que Rossetti fait dans les années 1850, eh bien, on voit cette femme qui se tient toujours un peu sur le seuil, qui est toujours un peu distante et très inatteignable dans sa beauté, qui est une beauté de l'au-delà, en fait. Elle est assez peu incarnée en tant que personnage physique. Et une chose me trouble aussi, elle est souvent représentée comme morte, ou pas loin de l'être, ou rejetée. Par exemple, on évoquait le premier tableau de Millet, où elle est représentée en Ophélie. Une autre représentation d'Ophélie, moi, m'a beaucoup marquée. C'est un crayon, une œuvre à l'encre et au crayon, faite cette fois-ci par Rossetti, qui représente Ophélie, et qui la représente sous les traits d'Ophélie, à un moment tout à fait différent de la pièce, où elle est rejetée par Hamlet, avec cette phrase extrêmement cruelle où on lui dit « Je t'ai aimé, jadis ». Et on la voit se détourner le visage, comme on la voit très souvent, y compris sur ses portraits photographiques, avec un visage sérieux, les yeux baissés, dans un regard très introspectif, un peu comme l'Ophélie de Millet. Et c'est une pose qui semble avoir été tout à fait symptomatique de sa personne. C'est-à-dire qu'un regard intérieur, des yeux baissés, tourner soit vers l'au-delà, soit vers l'en-dedans de soi, et cette pose de modestie, mais aussi de distance.
Donc, sur ces représentations, on peut aussi parler de Beata Beatrix.
Absolument.
Parce que quand vous dites que souvent on a l'impression dans la représentation qu'elle est morte ou en train de mourir, là c'est vraiment ça dans ce tableau.
Absolument. Alors là, le début rejoint la fin. Ce tableau est extrêmement impressionnant et il est un peu dans la veine de ce que Rossetti fera après. Quand je dis après, c'est après la mort de sa femme, hein, puisqu'elle est devenue malgré tout sa femme, tardivement. Eh bien, Beata Beatrix, là aussi c'est un tableau à rébus, à énigmes, mais qui la représente sans doute assez bien dans ce qu'elle a été à la fin dernière de sa vie. On voit cette intermédiation, là encore, entre l'amour et la mort, la vie, le trépas, avec le personnage de l'amour qui s'éloigne aussi. Et c'est en fait une représentation de la Vita Nuova au moment de la mort de Béatrice. Donc, Rossetti est fidèle au texte de Dante, mais l'adapte bien sûr à sa propre vie et à la vie d'Elisabeth Sidal. Donc effectivement, on voit Dante à l'arrière, reculant en fait, face à la mort imminente, l'amour s'éloignant aussi, et la ville de Florence qui, à l'arrière-plan, qui reprend les mots de Dante, où on voit que le poète dit que la ville elle-même était triste à la mort de Béatrice. Donc là, on voit Elisabeth Sidal représentée en Béatrice, mais une Béatrice beaucoup plus puissante, très peu juvénile, insérée dans un une complexité assez forte de symboles et irradiant, avec une irradiance de l'âme où on la voit nimbée dans une lumière de jour finissant avec des symboles qu'on ne peut pas ignorer. C'est-à-dire, par exemple, un oiseau qui représente l'Esprit Saint, mais qui représente la mort et qui lui dépose une fleur de pavot dans les mains. Alors, l'allusion au laudanum est assez transparente. Et on peut retrouver un peu la même pose que l'Ophélie de Millet. Elle n'est pas allongée, certes, mais le regard est intérieur, la bouche entrouverte, les mains s'offrent, et il y a un parallèle extrêmement troublant entre le premier tableau où elle apparaît et qui fait d'elle la steneur qu'on a connue, et ce dernier tableau, commencé très probablement au moment de la mort d'Elisabeth Sidal, et qui est un tableau commémoratif, un tableau pierre tombale, qui est à la fois plein d'amour, plein de regrets, plein de mystères.
Est-ce qu'on peut raconter les circonstances dans lesquelles elle est morte, Elisabeth Sidal?
Elle est allée dîner à l'hôtel Sablonnière à Londres avec Gabriel et son ami poète Charles Swinburne. Elle était un peu fatiguée et Gabriel l'a ramenée chez eux à Chatham Place. Elle s'est déshabillée et s'est couchée, tandis que lui est allé donner un cours à un centre de travailleurs. Et quand il est revenu, il l'a retrouvée inconsciente. Il a compris que quelque chose n'allait pas et il s'est précipité pour retrouver Ford Madox Brown, son meilleur ami, pour qu'il l'aide. Ils sont allés chercher des médecins, je crois que 4 docteurs sont venus en tout. Ils lui ont fait un lavage d'estomac. La bouteille de laudanum à côté d'elle était vide. Et malheureusement, au matin, elle était morte. Il y a une rumeur sur une éventuelle lettre de suicide. Mais il y a une autre possibilité. Il est plus probable qu'elle ait fait une overdose accidentelle, parce qu'elle avait tellement l'habitude de prendre du laudanum. À l'époque, on en prenait sans prescription. Le laudanum n'était pas du tout régulé. Des gens, sans scrupules, le fabriquaient dans des arrière-boutiques. Donc, la dose aurait pu être contaminée. On ne saura jamais la vérité. Je pense que pour préserver l'image publique de Gabriel, il était plus prudent de dire « Oui, il y a une lettre de suicide, mais qui disait « Occupe-toi de Harry », ce qui innocentait tout le monde plutôt que de le nier. Ça permettait que l'histoire soit oubliée petit à petit. C'est mon hypothèse, en tout cas. Donc je pense que ce n'était sans doute pas un suicide, mais une overdose accidentelle. Parce qu'elle espérait beaucoup faire de nouvelles choses.
Ce qui m'a intéressée, peut-être, c'est le retour aux sources. Voilà, c'est de savoir ce qui restait d'elle. Parce qu'elle devient, dans les années 70, une héroïne quasiment féministe. Elle devient aussi, sous la plume de Bram Stoker, dont elle a inspiré la Lucie, ou dans Dracula, où elle a inspiré tout un tas de choses. Elle est vraiment un miroir à fantasmes, en fait. Et au bout d'un moment, quand on a bien fini peut-être de fantasmer soi-même, et quand on vieillit un peu, on a envie de voir ce qui reste en propre. La source primaire, qu'est-ce qui reste d'elle? Quelle est cette petite voix, en fait, qui perdure?
Merci à Glenda Youd, Florence Alibert, Aurélie Petiot, Anaëlle Lahaye et Valérie Bajou. Lecture, Laurence Gray. Avec les voix de Christine Bruchet et Pablo Léridon. Traduction, Pablo Léridon. Premier épisode, La fabrique d'une légende, par Lila Bozès et Laurent Polleret. La suite au second épisode. Speak not of your woes, just steal yourself for holy death, crouching by the door. I then sway to music's pain, searing with the sighs, caressed if with a lover's touch, for it shall be your bride.
troubles and dreams. Send them all away. Put them in a bottle, and across the seas they'd stay. Slash the gold and whip it snap. Cross the lover's side. The earth trembles without remorse, preparing for to die. Salty ocean waves and sprays come crashing to the shore. Young lads down on barroom floors. Wrap your troubles and dreams, send them all away. Them in a bottle, and across the seas they'd stay. Violence echoes through the land, and heart of every man. The life's death existent wounds, pus runs through matted. The gleaming knife cuts early through the midnight air, cutting entrails in its path. Blood runs without care. Covers the body pores to be cleansed by dying time. Wrap your troubles and dreams, send them all away. Them in a bottle, and across the seas they'd stay.